pour investir, le coach.
C'est lundi, notre contrariant suisse est parmi nous. Bonjour Thomas Veillet. Thomas Veillet, chroniqueur, rédacteur, youtubeur, et à retrouver sur le site investir.ch depuis la Suisse. Avec vous, vous nous dites ce matin qu'on n'a même plus le temps d'acheter au son du canon. Nous allons revenir sur cette guerre totale au Moyen-Orient qui finalement est assez rapidement classée sans suite par les marchés financiers. Quel est votre regard? Comment comprendre ce qui se passe? Et l'impact sur les indices boursiers de la montée, en flèche, des tensions entre Iran et Israël.
Ben écoutez, c'est vrai qu'on est assez surpris globalement parce que ça fait un moment qu'on attendait quand même, à un moment donné, une correction des marchés, qu'on attendait une hausse violente du pétrole. On avait vu techniquement que le baril était prêt à accélérer sans vouloir anticiper sur la géopolitique. On savait que c'était la grosse problématique qui pouvait nous arriver dessus. C'est arrivé. C'est vrai que c'est assez surprenant d'un point de vue géopolitique, justement, de se dire on a quand même deux pays majeurs de la région qui s'opposent depuis des années, qui aujourd'hui ont passé à une étape supérieure. Aujourd'hui, effectivement, on a eu l'impression que c'était plus les gens qui montraient leurs biceps pour dire « Regarde, moi j'ai des armes, regarde, moi je peux me défendre ». Et puis finalement, ça s'arrête là. Alors pour l'instant, ça s'arrête là. On ne sait pas si ça va s'arrêter là, bien sûr. Mais c'est vrai que du côté des marchés financiers, on a eu cette capacité impressionnante. Finalement, on a eu peur vendredi. On l'a bien senti sur les marchés américains, typiquement. Samedi, c'était le stress. On a eu l'impression que du moment où les Iraniens ont attaqué, il a fallu taper sur un truc qui était ouvert. Donc, on a tapé sur le Bitcoin, c'était ce truc qui était ouvert. Et puis finalement, on se retrouve lundi matin en se disant « Ah, ben c'est tout ». Bon, bah, on va monter, puis du coup, on va vendre le pétrole. Et donc, c'est un petit peu choquant, parce que je vous cache pas que pendant tout le week-end, je me suis posé des questions en disant, est-ce qu'il faut faire une vidéo sur l'explosion à venir du pétrole, les 100...
Thomas, on vous écoute, on vous entend un petit peu mal. Allez-y, on est connecté.
Pardon, on se retrouve... Oui, on se retrouve un peu coincé avec finalement un pétrole qui va pas dans la direction qu'on attendait.
Bon, un petit peu de culture financière. On utilise souvent cette expression « acheter au son du canon et vendez au son du clairon ». Bon, en gros, ça veut dire qu'on achète dès que la guerre commence et on commence à vendre quand les accords de paix sont sur le point d'être signés. Mais comme vous le soulignez ce matin dans votre newsletter quotidienne, il n'y a pas d'accord de paix possible entre Iran et Israël. Par définition, une sorte de pacte de non-agression qui est envisageable. Alors comment on applique cet adage boursier qui fait ses preuves, si on regarde l'histoire financière, dans le contexte 2024 de ce Moyen-Orient en tension et dans ce monde en bloc?
Bon, c'est vrai que si on regarde historiquement parlant, ça a toujours été le cas. Donc cet adage, il n'a pas été inventé n'importe où. Mm-hmm. Et c'est vrai que sur tous les conflits, les marchés se comportent comme ça. Maintenant, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que finalement, on a des marchés qui sont d'abord extrêmement forts et extrêmement résilients. Mm-hmm. Je lisais un article ce matin où des gens disaient justement ce qu'il faut envisager aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de liquidités pour permettre aux gens de rentrer dans les marchés et d'acheter les actions qu'ils aimeraient pouvoir acheter. Donc du coup, il y a une espèce de soutien naturel qui se fait au marché. On l'a vu déjà sur ce qui s'est passé l'année passée, il y a deux ans, pardon, avec l'Ukraine et la Russie, ouais. Où finalement, ça a duré trois semaines, un mois, et puis on a oublié le sujet. Et aujourd'hui, on est de nouveau là-dessus en se disant, bah oui, c'est dangereux. Effectivement, on sait très bien, moi je ne suis pas spécialiste de la région, mais on sait très bien qu'entre l'Iran et Israël, ça m'étonnerait qu'un jour, ils fusionnent quand même, c'est peu probable. Donc du coup, il y a des tensions qui sont permanentes et qui aujourd'hui posent des questions. Donc aujourd'hui, que faire? Le marché est très fort. Le marché est très fort. Il y a plein de raisons qui justifient depuis pas mal de semaines des raisons de prendre des profits, mais ça veut pas baisser. Chaque fois qu'on a une correction de 1,5%, ça baisse pas. Ça rebondit directement derrière et on voit très bien de nouveau aujourd'hui. Donc il y a cet effet acheter sur faiblesse, le cas du fear of missing out, le FOMO, la peur de rater le train qui fait que ça continue à soutenir les marchés. Et c'est cette situation dans laquelle on est aujourd'hui qui finalement, pour l'instant, tant qu'on n'a pas... Alors si, je dis bien si, on avait eu un conflit qui aurait littéralement explosé et embrasé le Moyen-Orient, probablement que ça aurait baissé un peu plus et que l'histoire aurait été différente ce matin. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tant qu'on reste comme ça, eh ben, la situation n'a pas changé. L'inflation, on s'en fiche complètement. On l'a vu la semaine dernière, on a même carrément changé la mentalité des marchés. Aujourd'hui, on ne regarde plus l'inflation et ce qui est le danger qui va avec. On est en train de se dire, oui, mais on va oublier l'inflation et on va se concentrer sur l'extrême croissance des marchés financiers et cette bonne santé, finalement, de l'économie américaine.
Vous nous parlez en fait de digestion, c'est-à-dire que les menaces géopolitiques de l'Iran, les attaques de drones, elles étaient déjà finalement digérées par le marché vendredi. Les indices américains qui ont largement corrigé en attendant eh bien, la réalité physique de ces bombardements. Et quelque part, bon, on voit le c'était digéré parce que le pétrole, même s'il est haut et s'il est passé au-dessus des 90 pour l'instant, est en dessous et puis se maintient. L'or, bon, flambe déjà et connaît des pics séance après séance depuis plusieurs semaines maintenant. Qu'est-ce que fait le Bitcoin, peut-être pour finir notre échange ce matin? Et qu'est-ce que le cours du Bitcoin dit de cette situation géopolitique?
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de conviction généralisée qui dit que le Bitcoin va aller plus haut. Les raisons sont multiples et variées. On nous a dit plusieurs fois, le Bitcoin, c'est la valeur refuge qui va remplacer l'or. Et on a vu pourtant ce week-end que du moment où il a fallu taper sur quelque chose, comme je le disais avant, on a tapé sur le Bitcoin. Parce que c'était ouvert, je pense. Deuxième chose, il y a les ETF sur l'Ether, l'Ethereum qui vont être autorisés aussi. On peut supposer qu'il y a eu un petit peu de profiter de faire baisser les monnaies pour venir racheter derrière. On ne sait pas, on ne va pas être complotiste non plus là-dessus. Mais ça reste quelque chose où tout le monde est plutôt convaincu. Dans 5 jours, il y a le halving sur le Bitcoin. Donc, on va diminuer le nombre finalement de Bitcoin accessibles dans le futur. Résultat, ça devrait repartir à la hausse. C'est plutôt une saine correction à l'intérieur de tout ça. Mais bon, de nouveau, hein, si vous lisez la presse aujourd'hui, depuis le retour en grâce des crypto-monnaies depuis quelques mois, bah, tout le monde se dit, mais oui, mais c'est évident, le Bitcoin va aller à 100 000, probablement avant Noël cette fois. On parle tous de après le halving et tout le monde est extrêmement bullish. Je ne parle même pas de Mme Katie Wood qui parle de 3,8 millions sur le Bitcoin. Par contre, je pense néanmoins qu'on a quand même dû penser à quelque chose. Enfin, moi, j'y ai pensé, en tout cas. Ce week-end, quand le Bitcoin a commencé à baisser, on s'est dit, si jamais on part vraiment dans une grosse guerre assez violente qui pourrait s'étendre à plus loin que ça, il va y avoir forcément des problèmes d'électricité et d'énergie. Et le Bitcoin est quand même très lié à ce genre de choses. Donc, forcément, il y a peut-être aussi une réaction épidermique, pas forcément justifiée, mais qui était aussi un peu déclenchée par ce genre de choses.
Et oui, le Bitcoin que vous avez pu suivre ce week-end, puisqu'on rappelle que la cotation elle a lieu 24 heures sur 24. Le Bitcoin le marché était ouvert ce week-end, si je peux dire, contrairement au marché européen et américain. Merci beaucoup, Thomas. Veillez un petit mot sur un séminaire que vous organisez ce soir. Tenez, on vous fait un peu de pub. Racontez-nous.
C'est gentil. Ce soir, oui, dans le cadre de ma collaboration avec Swissquote en Suisse, on organise un séminaire qui se répète tous les mois, en fait, où finalement on permet aux gens de venir regarder comment on construit un portefeuille. Donc on a commencé le mois dernier et on continue ce soir à 18h et on va expliquer ce qu'on va mettre dans le portefeuille, pourquoi on le met et le suivre pendant les prochains mois. Et c'est gratuit, tout le monde peut s'inscrire sur le site de Swissquote en Suisse. C'est aussi autorisé aux étrangers parce que c'est aussi basé en Europe. Et donc vous pouvez vous trouver en tapant webinaire chez Swissquote.
Voilà, il n'y a pas de grande muraille de Chine Internet entre nous et la Suisse. Merci Thomas Veillé, votre regard de l'équipe investir.ch à retrouver en podcast et en replay.